Jean Diret des Nouvelles,
Jean-François Cadet,
Mickaël Goncalves,
Baptiste Antoine.
Bonjour, bonsoir. C'est une bande dessinée qui se lit comme un roman et qui se vit comme un film de guerre et d'aventure. Une narration très vive, un graphisme plein d'atmosphère et de couleurs qui nous font vivre à hauteur d'homme le poids de la ségrégation aux États-Unis sur un peu moins de 2 siècles. Une petite histoire purement fictionnelle, mais ancrée dans les événements dramatiques et poignants de la grande histoire. Le scénario est d'Yves Sant, qui a entre autres repris Blake et Mortimer, Torgal et 13. Le dessin est de Steve Cusor, qui co-signe la série Oh Boys, qui, comme cet album, met à l'honneur les Afro-Américains, en l'occurrence un groupe de 3 soldats noirs qui vont traverser la ligne de front dans l'Europe de la Seconde Guerre mondiale pour une mission secrète, retrouver le tout premier drapeau des États-Unis, une bannière réalisée par une couturière de Philadelphie dont la domestique noire a cousu en grand secret une étoile noire à 5 branches sous l'une des étoiles blanches. Un geste à la fois symbolique et très fort, une forme d'engagement pour que les Noirs prennent toute leur place dans la nation américaine. 5 branches de coton noir est paru dans la collection Air Libre des éditions Dupuis et vous m'en direz des nouvelles. Bonjour Yves Sant.
Bonjour.
Et merci beaucoup d'être en duplex et en direct avec nous des studios de RFI à Bruxelles. Bonjour Steve Cusor.
Bonjour.
Vous êtes à mes côtés ici à Issy-les-Moulineaux. Alors Yves Sant, quand s'ouvre l'album, le héros qui s'appelle Lincoln, que ses camarades appellent Link, se trouve au nord de Douvres, en Angleterre. C'est un soldat de seconde zone ?
Eh bien oui, à l'époque, beaucoup de soldats noirs s'étaient portés volontaires pour partir à la guerre comme leurs autres amis blancs. Malheureusement pour eux, beaucoup se sont retrouvés cantonnés dans des tâches subalternes à l'arrière parce que il était clair que personne aux États-Unis, en tout cas au gouvernement, n'avait trop envie que ces soldats noirs ne reviennent avec un statut de héros. Donc il fallait surtout pas trop leur donner l'occasion de faire leurs preuves, et on leur donnait des tâches qui étaient souvent assez ingrates, c'est vrai.
Alors, il n'est pas en première ligne, mais il a soif d'héroïsme et il a soif de combat, donc, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il va être servi. Alors, quand même, des histoires qui se passent pendant la Seconde Guerre mondiale, Yves Sant, il y en a quand même des tas et des tas, l'histoire de la BD en fourmi. Comment est-ce que vous avez fait pour trouver un angle aussi original, cette histoire de drapeau ?
Et ça, c'est la base, on va dire, du métier de scénariste. Effectivement, quand on se dit, tiens, j'aimerais bien faire une histoire de genre qui se passe donc pendant la guerre, ben, on est tout de suite confronté à ce problème. Il y a déjà eu des milliers de bandes dessinées et des milliers de films sur le sujet. Donc, oui. On commence à creuser. Qu'est-ce qui n'a pas encore été fait? Là, j'ai creusé aussi dans mes souvenirs personnels. J'ai eu l'occasion de passer une année aux États-Unis quand j'avais 18 ans. Et à l'époque, j'avais été très frappé par l'attachement des Américains de tous les âges à leur drapeau. Tous les lundis matins, à l'école, c'était debout, main sur le cœur, on regarde le drapeau et on écoute le directeur. Et ça m'avait fort frappé, parce que moi, de ma Belgique natale, c'était une notion qui m'était assez étrangère. Ce sens, cet attachement au drapeau était particulier. Donc j'ai commencé à réfléchir, tiens, ce drapeau américain, comment est-il né ? Donc je me suis documenté, j'ai redécouvert l'histoire de George Washington qui demande effectivement à sa couturière Betsy Ross de lui coudre le prototype en quelque sorte du drapeau qu'il avait lui-même dessiné sur un bout de papier. Et je poursuis mes lectures, je me dis bon voilà, elle le fait, il va le montrer au Congrès, le Congrès accepte le drapeau, très bien. Et que devient ce tout premier exemplaire ? Et ça, je ne trouve aucune réponse.
Oui.
Et c'est là que, quand l'histoire avec un grand H offre un aussi beau trou noir, c'est là que le scénariste a envie de plonger, de se dire, moi, je vais expliquer ce qu'il est devenu. Et c'est là où la fiction commence, évidemment.
Alors, Steve Cusor, vous avez dessiné, d'ailleurs, dans l'album, le leader indépendantiste George Washington, qui commande ce fameux drapeau à cette couturière de Philadelphie, Betsy Ross. On vous connaît, Steve Cusor, pour la série Oh Boys, avec Philippe Thiraud. Qu'est-ce qui vous fascine tant dans le destin des Afro-Américains qui se retrouvent également au cœur de cet album-ci ?
Qu'est-ce qui me fascine tant ? Qu'est-ce qui me fascine tant ? Peut-être, je sais pas, Mark Twain, cette fabuleuse aventure entre le petit copain de Tom Sawyer, Huckleberry Finn, et puis son ami Jim, qui a quand même pas le même statut. Et en fait, ce qui me fascine, c'est pas la couleur du personnage, c'est son statut. Et c'est que tout d'un coup, en tant qu'enfant, Huck, Huckleberry Finn, donc, ouais, lui se pose pas de questions. Pour lui, c'est un vrai copain. Il fait des aventures avec, ils se font tout un tas de choses, voilà, ils inventent des tas de choses, ils ont un monde intérieur, et alors que c'est plein de conséquences autour. Et je pense que cette naïveté de l'enfance l'empêche de voir qu'on les regarde de l'extérieur. Et finalement, c'est un monde magique. Et en même temps, qui amène beaucoup de d'instabilité. Parce que d'un côté, il y a l'enfant qui s'en fout un peu, qui est naïf, mais de l'autre, il y a quand même cet adulte qui est noir et qui, lui, sait qu'il est regardé. Et donc, il y a quand même des frontières à tout ça. Et je crois que, je sais pas, c'est des lectures comme ça qui m'ont toujours fasciné entre l'enfance et le monde de l'adulte, finalement.
C'est grâce à Oh Boys que vous avez voulu travailler avec Steve Cusor, Yves Sante ?
Pas nécessairement, non. Je crois d'abord que quand on a envie de travailler avec un dessinateur, c'est parce qu'avant tout, c'est un grand talent, un grand dessinateur. Moi, c'est ça qui me plaisait dans le travail de Steve. C'est sa force, sa manière de pouvoir exprimer les choses avec un trait d'une efficacité inouïe. Et puis, en l'occurrence, c'est un ami libraire qui nous a mis en contact, qui le premier a pensé, en lisant mon scénario, tiens, mais pourquoi pas Steve? J'ai tout de suite dit, ah, mais ce serait vraiment chouette s'il appréciait l'histoire, s'il avait envie. Donc, on se connaissait comme ça, comme collègues, on s'était croisés peut-être 2-3 fois, je connaissais très bien son travail, mais je ne connaissais pas Steve personnellement. Et donc, cet ami libraire nous a mis en contact, et on s'est rencontrés à Rennes, près de chez Steve, et c'est en nous découvrant, en parlant du sujet, Steve apportant ses propres idées, en nourrissant le propos, etc., que vraiment on s'est dit, ben oui, on a envie de faire ça ensemble, et plus les travaux ont avancé, plus ça devenait une évidence que le destin avait bien fait les choses, je vais dire ça comme ça.
C'est-à-dire que la narration, et donc d'une certaine façon le scénario, vous y avez également participé, Steve Cusor.
En fait, ce qui s'est passé, moi quand j'ai reçu le scénario, je me suis plongé dedans tout de suite, et ce qui m'a vraiment intéressé largement, c'était aussi de changer d'époque. Moi, j'étais plutôt effectivement dans la crise de 1929, les États-Unis, tout ça. Et là, deuxième guerre. Donc pour moi, c'est nouveau. Hein. Donc ça va être un challenge. Mais je sais qu'en tant qu'auteur de bande dessinée, on a quand même intérêt aussi à se renouveler et à surprendre. Donc il y avait déjà un challenge à ce niveau-là. Mais je crois que réellement, ouais, ce qui m'a fait passer le cap, d'aller jusqu'au bout des 150 pages, c'est quand même cette histoire humaine entre cette communauté noire, enfin voilà, que oui, on va dire que j'apprécie en revenant encore à cette anecdote de Huckleberry Finn et puis ouais, son ami Jim, enfin voilà, il y a quand même quelque chose où je trouvais que le projet, au-delà on va dire du grand récit de guerre, il était ambitieux, et ambitieux parce que humain, et que c'était pas qu'une histoire aussi d'hommes, mais une histoire de femmes, et il y a quand même deux protagonistes principales, et les deux premières sont quand même deux femmes. Oui. Que ce soit en 1776 avec Angela Brown, qui écrit donc ce fameux journal, et dont hérite plusieurs années après, donc en 1944, la jeune Johanna. Et donc c'est quand même le flambeau qui passe des mains d'une femme à une autre femme.
Voilà, donc Johanna qui écrit à son frère, enfin il y a une vraie correspondance.
Exactement.
Suivie à son frère,
et ensuite, qui passe le flambeau,
se trouve sur le voilà, théâtre d'opération.
Exactement.
De la guerre en Europe.
Mais c'est vrai qu'en parcourant le scénario, tout d'un coup, donc c'était pour moi un premier jet, un scénario, voilà, je découvre tout d'un coup l'univers, le sens, plein de choses, et en même temps, à ce moment-là, c'est plus fort que moi, je me fais mon histoire à moi.
Ah, oui, alors comment ça se passe, Yves Sante, à ce moment-là, parce que c'est quand même votre histoire à vous, à la base. Ça veut dire qu'il faut faire des concessions, ça veut dire qu'il faut accepter que chacun empiète sur le territoire de l'autre ?
Oh, je ne vois pas ça comme ça, je vois ça comme un travail d'équipe. De toute façon, dès le départ, je dois écrire l'histoire entièrement pour pouvoir la présenter et pour me sentir à l'aise avec la logique et le fond du récit. Mais après, ça devient une histoire qui se fait véritablement à quatre mains. Moi, je vois le scénario comme un petit peu au cinéma. Le scénariste remet son scénario au réalisateur, mais on attend du réalisateur qu'il l'enrichisse, qu'il le nourrisse par sa propre vision. Et les discussions qui suivent ne servent toutes qu'à une chose, à arriver à un résultat final qui sera le meilleur pour le public. Donc oui, il y a des choses auxquelles j'ai renoncé que je trouvais peut-être intéressantes. Mais l'explication de Steve me convainquait, me disait, tiens, non, c'est vrai, il a raison, ce sera peut-être encore plus intéressant comme ça. Dans certains cas, je défendais mon point de vue et Steve comprenait pourquoi je le défendais, il acceptait aussi. Donc ça s'est passé vraiment dans un esprit d'équipe pour atteindre le but ultime qui est la satisfaction du lecteur. Il n'y a rien d'autre à dire.
La comparaison avec le travail de réalisateur, on pourrait dire aussi de metteur en scène, vous la reprenez à votre compte
Non, en fait, moi, une fois que j'ai lu ce scénario, j'avais pas rencontré Yves encore. Quand on s'est vu à Rennes, moi, j'étais pressé de lui raconter mon histoire. Mon histoire de son histoire.
D'accord.
Et quelque part, c'est à travers ce travail-là, je lui ai pas dit, tu sais, moi, je fonctionne comme ça et puis pas autrement. Non. Ça s'est véhiculé de telle forme que moi, j'avais aussi une histoire à raconter sur la sienne. Et au moment où j'ai commencé à mimer les personnages, à voir des choses, etc., au lieu que Yves me dise, bah, tu vois la porte là, tu peux t'en aller. Non, il prenait des notes. Et là, je me suis dit, ok, banco, ça va marcher.
Mmh. Mais
et
vous avez
quelqu'un, voilà, qui était vachement attentif.
Oui, mais vous avez travaillé comme un réalisateur de cinéma avec un storyboard, avec des crayonnés pour bien poser la narration. Comment vous avez procédé?
C'est,
parce que c'est un sacré boulot.
Pour moi, c'est obligé. Moi, je travaille scène par scène. J'aime bien, voilà, on va dire, couper les, enfin, mettre les choses à plat et qu'elles deviennent simples. Donc, scène par scène, il peut y avoir des scènes qui font 10 pages comme 20 pages ou 3 pages. Je veux juste savoir ce qu'on y raconte et à quel moment, moi, je peux intervenir. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on y raconte vraiment? Est-ce que c'est une avancée de 3 gars qui font 500 mètres ou est-ce que c'est 3 gars qui sont morts de faim, qui ont froid et qui cherchent leur chemin? C'est toute la donne, elle est là. Et pourtant, on va raconter la même chose, mais pas de la même façon. Et c'est là où je m'inscris quelque part en metteur en scène, c'est que j'ai besoin d'être moi dans la peau des gars. J'ai besoin d'être chacun d'eux et de me dire, est-ce qu'à ce moment-là, il serait en train de parler ou il serait en train de rien dire? Est-ce qu'il sortirait une grosse blague pour détendre l'atmosphère? Je sais pas. Donc moi, c'est à ce moment-là que je suis vraiment à la lettre, l'esprit qu'a écrit Yves, mais pas forcément parfois par les mots réels qu'il a écrits, ou alors je le tiens au courant, mais c'est aussi une façon de monter un petit peu en pression l'incarnation des personnages.
Alors, il y a donc effectivement tout ce travail de mise en scène, de réalisation. Nous aussi, on a un réalisateur, hein, Michael Goncalves, qui a mis en onde un des épisodes que vous avez imaginé, donc on va dire tous les deux. Ça se passe à Saint-Lô, en Normandie, donc sur un théâtre d'opération, un théâtre de guerre. Nous sommes page 95 de l'album.
La ville avait été pilonnée le jour du débarquement par nos propres bombardiers.
En avant, allons exterminer ces salopards.
Si tu avais pu voir ça, Serette, il n'en restait rien. Par contre, les snipers allemands étaient toujours debout.
Hé, hey, soldats, cette lunette de visée, vous savez vous en servir ou c'est juste pour épater les filles?
Oui, non, mon lieutenant, je veux dire, oui, je peux m'en servir.
Alors, vous attendez quoi pour aller faire 2 ou 3 trous dans le front de ce fils de pute, bordel de merde? Un carton d'invitation?
C'est ainsi que je me suis retrouvé dans la peau d'un vrai soldat. Enfin, quand je dis un vrai soldat... Pour le coup, on me demandait surtout de jouer à la chèvre.
Pas de blague, hein?
J'espérais que ces doigts croisés n'étaient qu'une forme d'humour. Ok, aussi bon qu'à l'entraînement, le Aaron. Rassurant.
Ne reste pas planté là, pauvre idiot, tu vas...
Oh, reviens, Link, cours en zigzag, je te couvre. Grave?
Je ne crois pas, mais Jésus, je ne pensais pas que ça pouvait faire aussi mal.
La voie est dégagée, en avant, en avant!
Tiens, voilà le reste de la cavalerie.
Bon sang! Qu'est-ce qui vous a pris de joyeux héros?
Mais mon lieutenant, c'est l'autre lieutenant qui dirigeait l'attaque qui nous a donné l'ordre de...
Taisez-vous, Johnson! C'est moi votre supérieur. Et je vous rappelle que notre mission n'est pas de vous faire tuer pour la 29e division, suis-je clair?
Les ordres étant les ordres, nous nous sommes repliés avec notre Texan vers le QG de campagne le plus proche.
Aaron ?
Aaron ! Aaron ! Disparu, volatilisé.
Aaron ! Là-bas ! Ouch !
Oh shit !
Aaron, bouge ton cul de là !
Il n'entend rien ! Il n'y a...
Je te jure que je ne faisais pas d'héroïsme inutile, Johanna. Il n'y avait pas d'autre solution.
Que s'est-il passé? Je n'entends rien.
T'inquiète, Aaron. T'as juste les 2 tambourins hors service. Tu t'en sors bien, mon pote.
Ouais, et c'est dans un cimetière que se conclut cette scène qui est absolument grandiose. Steve Cusor, il y a des scènes de bataille comme ça absolument incroyables. On va pas tout dire, mais il y a un parachutage, on voit le débarquement de Normandie, on se retrouve au cœur de la bataille des Ardennes pendant l'hiver 44. C'est vraiment l'histoire de vos personnages à tous les deux au cœur de la grande histoire. Une fiction totale, donc forcément il fallait que cette histoire soit crédible. même si elle est purement fictionnelle.
Bah, le boulot d'un scénariste et d'un dessinateur, hein, pour une bande dessinée, c'est quand même de rejoindre cette dramaturgie, c'est-à-dire d'être crédible. Alors après, est-ce que c'est vrai ou pas? Moi, c'est pas trop mon problème. Moi, ce que je veux, c'est que justement, ce soit crédible et qu'on y croit.
Donc, forcément, bon travail de documentation quand même,
oui.
Et s'attacher à tous les détails graphiques, éviter les anachronismes, par exemple.
Bah, c'est sûr. Moi, justement, je voulais pas trop rentrer dans ce système de documentation où on allait me reprocher qu'il manquait un boulon sur un char.
Oui. Non, mais
je suis pas spécialiste.
Vous n'avez pas le dessin d'une précision millimétrée non plus, hein.
Bah, en tout cas, moi, je suis pas dans ce dessin-là.
Voilà.
Voilà, je suis pas dessinateur reporter où tout d'un coup on peut regarder à la loupe où il y a chaque médaillon est bien accroché.
Oui, c'est pas
moi, je suis dans la silhouette. Voilà. Et moi, je suis plus dans est-ce que un char, ça, quand ça roule, ça dégage un paquet de terre et combien et comment, quelle est sa lourdeur, on va dire, quelle est sa masse et autres. C'est ça qui m'intéresse. C'est le côté impressionnant. Donc, je travaille pas mal par la silhouette et pareil. Un GI, de loin, on doit le reconnaître parce qu'il a une façon de porter son casque, il a une façon de se tenir, son flingue. Enfin, là, moi, pour moi, on est aussi dans le cliché. C'est ça qui m'intéresse.
Ça doit parler au lecteur.
Et oui, parce que derrière, enfin, en amont, il y a ce gros travail de Yves, justement, au niveau historique, au niveau documentation, au niveau crédibilité. Moi, le mien, c'est de faire passer tout ça d'une façon peut-être un peu plus légère. Donc, quelque part, j'incarne les personnages au maximum, mais je leur donne aussi une apparence que les gens connaissent.
Voilà.
Donc je vais pas être dans
vous entrez dans des
contrepoints
qui sont déjà
connus,
digérés par
et
le
oui,
lecteur.
Et oui, parce que là ils se disent tiens mais oui bah oui, mais sauf que tout d'un coup on y découvre d'autant plus une histoire extraordinaire ou unique que les codes graphiques en même temps nous prennent pas à contre-pied.
Alors le fil rouge de l'histoire, c'est donc réellement cette correspondance hein, entre Johanna et Link, Yves Sant. Alors il y a effectivement, puisque c'est un récit dans le récit, hein, d'une certaine façon, il y a des références à des événements contemporains, donc de 1944, hein, mais aussi des références à ce qui s'est passé en 1776. Et pour bien que le lecteur comprenne, il y a des balises de lecture, hein, et ce qui passe notamment par les couleurs, en fait, il y a vraiment des petits chapitres, en quelque sorte, qui correspondent au travail du coloriste. Vous auriez jamais eu l'idée, Yves Sant, de faire un récit chronologique, parce que le risque, c'est de perdre, justement, le lecteur.
Je pense pas que ce soit trop compliqué à suivre, dans le sens où il n'y a finalement qu'un seul flashback. L'histoire commence effectivement en 1944 à Douvres pour planter le décor de nos héros. Ça, c'est le plus important. Ensuite, à travers le courrier, hop, on replonge en 1776, et effectivement, il y a un long passage qui nous raconte l'historique, la genèse de ce premier drapeau, et pourquoi il y aura moyen de l'identifier grâce à cette étoile noire cousue sous une des étoiles blanches, et pourquoi on va devoir le retrouver. Mais après, on revient en 1944, et de nouveau, la chronologie suit son cours. Donc, je pense pas que ce soit trop compliqué, et j'ai utilisé les narratifs, ce qui se fait à travers ce courrier. Donc, le narratif, c'est ce texte qui provient soit d'une lettre ou qu'un personnage raconte, qu'on place en haut des textes, mais qui ne sont pas dits par un personnage. Il n'y a pas donc de flèche en dessous de la bulle. Et cette technique du narratif est considérée par beaucoup comme désuète aujourd'hui. On ne fait plus beaucoup ça. Mais moi, j'aime l'utiliser parce que ça permet d'aller très vite dans le récit, de raconter des choses en trois phrases qui auraient pris normalement deux ou trois pages s'ils avaient été dialogués. Et ça permet de donner un souffle, une ampleur au récit sans prendre trop d'espace, en laissant beaucoup plus d'espace au dessin. Donc j'espère que, en tout cas sur le plan technique, la manière dont c'est écrit ne posera aucun problème de lecture au lecteur.
Non, et puis il y a effectivement ces couleurs qui permettent effectivement de marquer les grandes étapes de la narration. On va en dire un petit mot dans la deuxième partie de l'émission. On est obligé, messieurs, malheureusement, de s'arrêter quelques secondes pour le flash d'information. Et on se retrouve juste après. Et puis nous accueillerons également Anne Métainier, chercheur et spécialiste de la ségrégation aux États-Unis. Et vous m'en direz des nouvelles.
Vous m'en direz des nouvelles ?
Jean-François Cadet.
VMDN avec le dessinateur Steve Cusor à mes côtés à Paris et le scénariste Yves Sant en duplex des studios de RFI à Bruxelles. Leur album 5 branches de coton noir est disponible chez Dupuis dans la collection Air Libre. Alors dites-nous quelques mots, Steve Cusor, du travail de votre coloriste Mif Versavel qui s'occupe donc, comme son nom l'indique, des couleurs qui participent directement à la narration et à la compréhension du récit.
Bah, c'est venu d'une anecdote toute bête, hein, donc comme vous l'avez dit, on vit en couple, et donc c'est pas toujours simple.
Ah, je l'ai pas dit, mais je le savais.
Bon, d'accord,
mais...
ok. Et donc, voilà, on bosse un peu 24 heures sur 24, côte à côte. Et bon... On est d'accord, le statut de coloriste, on peut pas dire que ce soit le statut le mieux payé du monde dans la profession.
Certes non.
Et donc voilà un petit peu nos échanges, et quelque part, c'est parti de ça, en me disant, bon ok, tu veux faire un aplat, juste simple, comme ça t'iras plus vite, tu feras 12 pages par jour.
Excusez-moi, mais un aplat, ça veut dire quoi?
Voilà, c'est un aplat d'une couleur.
C'est quoi un aplat?
C'est une couleur, on va dire, voilà, c'est une couleur unique. Alors un aplat monochrome, hein,
voilà,
une couleur unique, voilà.
Bon,
et quelque part, bon, c'est venu comme ça un petit peu d'un échange un peu, voilà, un peu électrique entre nous.
Oui.
Et en même temps, moi je me suis dit, c'est pas con, parce que quelque part, aussi à une époque, des collègues à moi m'avaient entre guillemets, pas reproché de faire des couleurs réalistes, mais quelque part de découvrir mon travail du noir et blanc à travers des expos, voilà, des originaux ou un tirage noir et blanc spécial. Et en me disant, c'est dingue, dans tes bouquins, on voit pas tout ce travail, parce que le ciel bleu, l'herbe verte, tout ça, fait que finalement ça lisse un petit peu le propos. Et puis le bouquin, il ressemble à tous les autres, quoi. Donc un peu notre discussion avec Mif là-dessus, c'est quand même revenu en me disant, mais ouais, il y a rien de mieux finalement qu'une couleur pour mettre finalement le noir et blanc, c'est quoi? C'est du noir et puis une couleur blanche par-dessus. Enfin bon, donc
oui.
Quelque part, voilà, rendre monochrome la chose. Alors l'idée est partie de ça. Je lui ai demandé de faire des essais pour vraiment garder le noir et blanc et garder l'intention des lumières. Et elle m'a fait une dizaine de planches, et là-dessus, j'ai choisi les 2-3 meilleures sur lesquelles vraiment on a décidé de partir. Donc bien sûr que c'était pas qu'une couleur, voilà, on va dire simple, en aplat, sans variation, il y a énormément de boulot. De toute façon, pour que ça paraisse simple, il faut le bosser. Donc ensuite, moi je reviens aussi régulièrement dessus, on bosse, voilà, pas loin l'un de l'autre. Donc au final, cette impression de simplicité est pas si simple que ça. Je crois que j'ai même passé plus de temps parfois avec elle à bosser des scènes que oui, quand on met un ciel bleu et de l'herbe verte, c'est beaucoup plus simple parce que ça se décline sur toutes les pages. Là, je voulais que justement la couleur n'intervienne pas et n'empêche pas le lecteur de se concentrer uniquement sur l'histoire et la narration et de pas se demander quelle heure il était du jour ou quoi, où réellement on était, enfin, et que on était réellement en train de raconter une histoire humaine, pas autre chose, pas un décor.
En exergue de l'album, il y a cette phrase en épigraphe.
I have a dream that one day.
I have a dream today, le pasteur Martin Luther King, le 28 août 1963, devant le Lincoln Memorial de Washington, à l'issue de la marche contre les discriminations raciales. Alors c'était une évidence de placer l'album sous le signe de Martin Luther King, Yves Sant?
Une sorte d'évidence, oui, puisque le thème qu'on aborde est évidemment le thème défendu par Martin Luther King, qui était l'espoir d'une fin de la ségrégation. Je dis bien espoir parce que malheureusement, cette ségrégation était bien présente dès le départ, dès la création des États-Unis. Elle était toujours bien présente sur le terrain pendant la guerre 40, et malheureusement elle est toujours bien présente aujourd'hui. Donc de ce point de vue-là, je crois que la phrase de Luther King, enfin le discours de Luther King, le message, est malheureusement toujours parfaitement d'actualité.
Oui, alors je me trompe ou il y a un gros clin d'œil à Martin Luther King, page 65-66, parce qu'il y a un personnage qu'on appelle mon père et qui, dans sa posture, Steve Cusor, peut faire penser au pasteur noir.
Ah, c'est marrant, mais je l'ai pas du tout pensé comme ça, mais maintenant.
Vous n'arriverez pas à me le faire croire.
Maintenant que vous me le dites, non mais voilà. Et c'est vrai qu'en plus, je le mets dans l'ombre tout le temps.
Voilà, si exactement. Donc, voilà. Nous, alors évidemment, l'époque historique colle pas. Donc, ça peut pas être lui, mais je vais penser un petit clin d'œil quand même.
Mais je me souviens pas du tout y avoir pensé à ce moment-là. Non, c'est vrai.
Bon,
honnêtement. Et sinon, je le dirais.
Bonjour, Anne Métainier.
Bonjour.
Merci de nous rejoindre, merci d'être avec nous en duplex de Clermont-Ferrand grâce aux bons soins de nos collègues de France Bleu Pays d'Auvergne. Vous êtes chercheur en civilisation américaine, vous avez publié dans la collection historique chez l'Harmattan un ouvrage intitulé « Ségrégation raciale aux États-Unis, six portraits de stars ». Décidément, il est beaucoup question d'étoiles dans cette émission. Et Martin Luther King fait évidemment partie de ces stars, aux côtés de Nina Simone, Claudette Colvin, Jack Johnson, Miles Davis ou encore Tommy Smith. Qu'est-ce qui réunit ces six personnages, Anne Métainier?
Eh bien, c'est la douleur de la ségrégation. C'est les problèmes au quotidien, sont les insultes, ce sont tout ce dont on vient de parler. Voilà, donc l'envie de se sortir de ça. Ces gens ont utilisé différents moyens pour se sortir de ça, ont ressenti différentes choses face à la ségrégation. Hein. Il y a eu des gens comme Luther King dont on vient de parler qui s'en sont remis à Dieu puisqu'il était pasteur chrétien. D'autres ont été dans la rage, dans la colère en permanence. Je pense à Nina Simone, aussi Miles Davis. D'autres ont été plus dans le courage, comment dirais-je, sans provocation. Hein, quand on voit ce qu'ont fait Tommy Smith et John Carlos pour les Jeux Olympiques de 1968. Donc il y a eu cette ségrégation a généré différentes attitudes.
Alors Tommy Smith que vous évoquez, c'est un des meilleurs athlètes de tous les temps sur 200 mètres. Hein. Ça se passait aux Jeux Olympiques de Mexico en 68 et on l'a vu comme ça lever le poing. Là on est vraiment dans le geste fort, on est vraiment dans le symbole. On a un peu l'impression quand même quand on regarde les six personnages dont vous nous parlez, Anne Métainier, que le combat contre la ségrégation avait besoin d'être incarné, avait besoin de symboles, avait besoin d'images.
Bien entendu, il fallait, d'autant plus qu'à cette époque, en 1968, il y avait les caméras. C'était une époque qui commençait à devenir moderne. Les années précédentes, les années 40, les années 50, c'était un peu plus compliqué de montrer au monde ce qui se passait aux États-Unis. Mais eux, Carlos et Smith, ont eu une formidable occasion de le faire. Donc, mais ça n'a pas été spontané, hein, quand ils ont gagné cette médaille d'or pour Smith et de bronze pour Carlos, ça avait déjà été un petit peu préparé à l'avance. Hein. Il s'était dit, voilà, si on arrive à avoir une médaille, on va faire quelque chose.
Voilà,
c'était...
Oui, allez-y.
C'était moitié improvisation, moitié préparé. Voilà. Bon.
Et puis, il y a eu, évidemment le précédent Jesse Owens hein, au JO de Munich en 36, Yves Sant. Et d'ailleurs, vos personnages, hein, ces soldats, eh bien, ils se souviennent hein, de cet épisode. Et ils ont été très marqués par le fait que le président Roosevelt n'ait pas reçu Jesse Owens à la Maison Blanche.
Effectivement, pour eux, c'est une douleur, c'est un échec. Nous, du côté blanc, si je puis dire, on connaît l'histoire de Jesse Owens qui gagne, ça vexe Hitler, qui se retire, etc. Mais ce qui est très intéressant, c'est la suite de l'histoire. Effectivement, Jesse Owens est un héros américain. Il rentre aux États-Unis, mais le président américain ne va pas plus lui serrer la main qu'Hitler parce qu'il a peur d'une image de lui serrant la main d'un noir alors qu'il y a une branche de son parti très conservatrice et que les élections approchent. Donc voilà, pas de reconnaissance non plus dans son propre pays. Et quand il retourne chez lui, ben, il est prié de retourner s'asseoir à l'arrière du bus, comme tous les Noirs de l'époque. Et cette histoire-là, cette partie-là de l'histoire de Jesse Owens, on en parle très peu, mais nos héros noirs, eux, la connaissent très bien.
Oui, et il a fallu attendre Obama hein, pour que Owens soit enfin honoré à la Maison Blanche. C'est aussi le cas d'ailleurs de Tommy Smith. Anne Métainier, les sportifs, hein, vous évoquiez Jack Johnson tout à l'heure, ils ont vraiment joué un grand rôle hein, dans la dénonciation de la ségrégation.
Jack Johnson a joué un rôle fondamental. Il a ouvert la porte de la liberté aux Noirs, à la communauté noire américaine. Pourquoi ? Parce qu'il était totalement insoumis. Ça a été un homme qui n'a jamais plié les genoux devant les Blancs. Il a fait absolument ce qu'il voulait de sa vie. Ça lui a coûté un petit peu cher. Mais voilà, donc il a montré en tant qu'homme, en tant qu'homme noir américain ou homme américain noir, qu'on pouvait faire ce qu'on voulait et qu'il fallait avoir ce courage-là. Donc, en fait, à partir de Jack Johnson, on a eu vraiment une porte ouverte sur la liberté. Les Noirs ont compris qu'il y avait une possibilité, que ça serait pas forcément facile, hein, bien sûr. Mais il l'a fait, il l'a fait.
Buffalo Soldiers. Alors Anne Métainier, qui étaient ces fameux Buffalo Soldiers?
Eh bien, c'était un régiment, donc on rejoint un petit peu ce qui a été dit tout à l'heure en première partie d'émission. Les Noirs n'ont pas tous été relégués à des postes subalternes pendant les conflits. Donc là, on est dans la guerre de sécession, hein, les années 1861-65. Et un régiment du Massachusetts, hein, un régiment composé exclusivement de Noirs, a été créé, dirigé effectivement par des officiers blancs. Et voilà, donc c'était un régiment d'infanterie qu'on a appelé les Buffalo Soldiers. Donc c'est, en fait, ce sont les bisons. Donc il y a cette notion de force.
Oui. Et Bob Marley, dans sa chanson, parle d'Afro-Américains volés à l'Afrique et amenés en Amérique. Ça veut dire qu'on ne les considère pas comme des Américains au sens plein du terme à l'époque.
Ben, c'est-à-dire qu'il reprend, en fait, il fait allusion au mouvement « back to my roots », c'est-à-dire « retour aux racines ». Donc, la phrase clé pour moi de cette chanson, c'est « si tu veux savoir qui tu es, il faut savoir d'où tu viens, il faut connaître tes racines ». Donc, effectivement, il parle de l'Afrique, de ces gens qui ont été, déportés aux États-Unis et qui sont devenus, après... parfois des Américains et parfois restés des Africains.
Oui, en fait, ça se voit assez bien dans la bande dessinée. Dès l'indépendance des États-Unis, les Noirs se rendent compte qu'ils n'ont pas réellement une place à part entière dans l'armée, mais aussi dans la nation américaine.
Bien sûr. Ce que j'aurais voulu dire à propos justement aussi de la guerre d'indépendance et de cette révolution, c'est qu'il y a eu aussi un autre régiment de Noirs qui a été formé. En fait, ils n'avaient pas tout à fait leur place. En fait, dans les conflits, les deux premiers, la guerre d'indépendance et la guerre de sécession, on a souvent fait appel à eux par nécessité, mais pas parce qu'ils avaient une place à proprement parler dans la société. Parce que il y avait ces deux mouvements souvent qui se répétaient. Hein. Les blancs ne voulaient pas des noirs dans l'armée. Et puis, il y avait des pertes d'hommes au fur et à mesure. Donc, les régiments, les hommes manquaient et on faisait appel aux noirs. C'est souvent par nécessité.
Alors, ils sentent dans la BD, les héros vont croiser le racisme désinhibé des nazis, notamment d'un personnage qui s'appelle le Major Schupf, hein, un SS qui se surnomme lui-même Der Teufel, c'est-à-dire le diable, mais l'hostilité première, c'est celle qu'ils rencontrent au sein même de leur régiment, entre les officiers blancs et les hommes de troupes.
Oui, tout est résumé dans la scène où nos trois gaillards décident d'aller frapper à la porte d'un supérieur pour offrir leur service et monter au front, puisque le débarquement avait été fait, il n'y avait plus aucune raison de rester à l'arrière avec ses faux chars, ses faux engins pour faire croire que le débarquement allait se passer ailleurs. La mission avait réussi en quelque sorte. Maintenant, tout allait se passer de l'autre côté de la Manche. Donc nos gaillards vont se présenter et la réaction, tout est résumé là, c'est que cet officier supérieur marque un temps de silence en les regardant et puis part d'un énorme éclat de rire. Oui. Pour lui, c'est tout simplement absurde que ces Noirs se proposent pour partir de l'autre côté au front. Et pour les raisons que j'ai mentionnées tout à l'heure, effectivement, il était exclu que les Noirs, à part quelques exceptions, effectivement, quelques régiments, il y en a eu un ou deux aussi en 40, ne puissent revenir au pays avec un statut de héros. Il fallait éviter ça à tout prix. Et puis, en plus, c'était pas du tout dans les mentalités qu'ils puissent être héros, tout simplement.
Il y a l'armée, effectivement, et puis il y a aussi Steve Cusor, le reste de la société américaine, hein, qui est donc resté sur le territoire des États-Unis, de l'autre côté de l'Atlantique, tel que le perçoit le personnage de Johanna, qui vit à Durham, donc on est en Caroline du Nord, hein, c'est bien ça, ouais. Johanna qui est une militante, hein, d'ailleurs, des droits civiques.
Bah oui, et puis comme pour moi, hein, c'est un petit peu comme je le disais au départ, mais c'est cette histoire, c'est avant tout une histoire de femme, et c'est là où je me détache un petit peu de la bande dessinée, on va dire, qu'on a faite, et que ce serait une histoire de guerre, on va dire. Oui, ça se passe
c'est
pendant
aussi ça,
un
mais
conflit.
Pas que ça.
Oui, parce que c'est pendant les conflits que les gens se révèlent et que les espoirs demandent à être justement écoutés. Et c'est pas anodin que ça se passe sur deux fronts, c'est-à-dire la révolution américaine au départ, qui justement, à travers cette femme, qui est donc Angela et qui va écrire ce fameux journal, espère de ce nouveau pays, de ce futur nouveau pays, un changement. Voir les Anglais en face, hein, quand même, qu'on prenait pour des ennemis, parce que dans nos livres d'histoire, c'est comme ça, promettait la liberté à beaucoup d'esclaves s'ils se battaient dans leur camp. Donc les Noirs se sont battus des deux côtés. Et donc face à face aussi. Et finalement Washington, tout ce qu'on voilà, on espérait de lui, voilà, c'est un petit peu tombé comme ça en miettes pour un certain nombre d'entre eux. Et le deuxième conflit dont on parle, c'est cette fameuse deuxième guerre. Alors oui, Johanna, donc la sœur de Lincoln, de son côté, qui hérite de ce journal, voit tout d'un coup, à travers ce portrait de femme d'une certaine époque, le même combat qu'elle est en train de mener. Et pour elle, c'est il y a de la fraîcheur, elle pétille, elle y croit. Et quelque part, c'est à travers l'outil de son frère qu'elle aussi, malgré tout, c'est pas quelqu'un qui aime la guerre, c'est pas quelqu'un qui aime les armes, mais c'est quand même grâce au fait que lui rêve de devenir un héros, quelque part, qu'elle va aussi pouvoir s'exprimer à travers quelque chose. Tout comme Angela, à l'époque, 1776, s'exprime à travers le journal. Elle s'exprime à travers les lettres, cette correspondance avec son frère, et il y a quand même de l'espoir. Et les gars, sur le terrain, bon, bah, c'est quand même avant tout voilà, le passage du flambeau d'un, voilà, de ces femmes qui transmettent le message. Et c'est ça, moi, qui me touchait. C'était pas les gars qui vont dans la guerre, voilà, on va jouer au... Non, c'est autre chose, c'est plus fort. Et quelque part, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, au niveau de la ségrégation, enfin, des bataillons de Noirs, en fait, oui, on leur faisait appel au moment des conflits, mais ils n'étaient pas acceptés en temps de paix. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de corps armé de Noirs en tant que paix. Ça, c'était, et ça date, je crois, du Vietnam, pas avant.
Alors, passionnant, Steve Cusor. Alors, il y a aussi, hein, puisqu'on évoquait Johanna à l'instant, une petite rencontre que je voudrais évoquer très très brièvement, une rencontre entre Johanna et un universitaire, le docteur Clark, qui a tatoué sur le bras un dessin avec 5 lettres, 5 initiales, N-A-A-C-P. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer, Anne Métainier, ce que signifient ces 5 lettres et à quelle organisation elles font référence?
Eh bien, c'est une des premières organisations vraiment structurées aux États-Unis pour la défense des Noirs, pour la promotion des gens de couleur. Donc, on est en 1909. Enfin, il y a un mouvement national qui se crée. Vous voyez, il y a eu des choses, bien sûr, avant. Les Noirs ne se sont jamais laissés faire face à la ségrégation, jamais. Mais c'était des petits mouvements dans les villes, comme ça, à droite, à gauche. Tandis que là, c'est un mouvement national qui prend la défense des Noirs.
Et c'est une association qui existe toujours aujourd'hui ?
Elle existe toujours, elle est toujours effective, bien entendu.
Ça veut dire que même aujourd'hui, et c'est un petit peu ce qu'Yves Sant disait tout à l'heure, il y a encore pour les Noirs aux États-Unis des combats à mener ?
Bien sûr.
De quelle nature ?
Plus que jamais. arrêter les violences, l'égalité dans certains cas, rien n'est terminé. Beaucoup de choses ont été arrangées par la loi. Et c'est vrai que les lois Jim Crow, les lois ségrégatives de la période post-guerre de sécession sont abolies.
Oui, bien sûr.
Mais il reste quelque chose dans l'attitude des gens. Hein, la ségrégation, c'était des lois. Je dis c'était à l'époque des lois Jim Crow. C'était des lois, mais c'était aussi une attitude des gens. C'est-à-dire que, outre les lois, les Noirs devaient se plier à une certaine étiquette, voyez, ne pas froisser les blancs, ne pas, et c'est ce qui reste aujourd'hui. Les lois, grosso modo, on va dire, sont pour, bon, à peu près pareil pour les noirs et les blancs, mais c'est cette attitude des blancs dans parfois bien,
oui, bien sûr, il faut nuancer aussi.
Non, jamais, c'est un sujet trop douloureux. Il y a aussi des blancs qui ont œuvré pour libérer les noirs, mais c'est bien sûr, c'est d'actualité. Il y a aussi, donc on parlait de la NAACP qui continue, mais il y a aussi le mouvement, donc à partir de ce qui s'est passé là en 2000, dans les années 2010. Donc le BLM, hein, Black Lives Matter, donc les vies des Noirs comptent. Donc ça, c'est un autre mouvement qui vient s'ajouter. Ça prouve bien que, bien sûr que c'est encore d'actualité.
Merci beaucoup à tous les trois pour toutes ces explications. On apprend vraiment énormément de choses, hein, dans cette bande dessinée. Merci beaucoup Steve Cusor. Merci à vous Yves Sand. 5 branches de coton noir, on le rappelle, c'est aux éditions Dupuis dans la collection Air Libre, qui fête d'ailleurs ses 30 ans cette année. Merci à nos collègues de France Bleu Pays d'Auvergne et du studio 2 RFI à Bruxelles. Et puis merci à vous également, Anne Métainier. Je rappelle les références de votre dernier ouvrage, Ségrégation raciale aux États-Unis, 6 portraits de star, c'est édité chez l'Harmattan.
Vous m'en direz des nouvelles sur RFI.
Allez, avant de se quitter, un petit détour par le festival Au fil des voix, dont c'est la 11e édition. Ça se passe en France, cette fois-ci en Ile-de-France, avec comme toujours 2 concerts par soirée, avec des artistes qui sortent tout juste un disque et qui viennent souvent des 4 coins de la planète. Pour l'ouverture, c'était les bluesmen de Delgrès et Patrick Ruffino, l'occasion pour Antoine Alain Desmet d'aller à sa rencontre.
Papa chan yambe, mama chan yambe, fofo chan yambe, dada chan yambe.
Patrick Ruffino, vous êtes bassiste béninois, vous êtes assez connu sur la scène afro-parisienne, hein. Ça fait 20 ans que vous écumez les concerts, et c'est vous qui avez ouvert le festival Au fil des voix. Bonjour Patrick Ruffino.
Ben bonjour à toi. Ceux qui n'étaient pas à l'Alhambra, c'est dommage pour eux parce qu'ils ont raté quelque chose, mais j'espère qu'ils vont vite rattraper les prochaines dates.
Patrick Ruffino, le festival Au fil des voix présente chaque soir 2 concerts. Et vous avez ouvert donc le festival avec le groupe Delgrès.
Mais énorme. Vraiment, je remercie le festival Au fil des voix de nous avoir mis ensemble, parce que c'est de la tuerie.
Delgrès, donc du blues des Caraïbes. Patrick Ruffino, vous sortez un nouveau disque, il est tout juste dans les bacs, à Go, et on est dans votre studio.
Ici, voilà, c'est là d'ailleurs qu'on a enregistré mon album, à Go.
Ah, et donc c'est un disque fait maison.
Celui-là, on a voulu passer à l'essentiel. Et dès qu'on a trouvé le son, c'est allé tout seul.
Ça va être un son des années 70.
Mais oui, parce que déjà, ça fait partie de mon histoire. Déjà, tout petit, j'avais commencé par travailler avec des vieux orchestres de mon pays. Et ma grand-mère, qui était originaire du Ghana, m'a fait un peu ma culture musicale.
Je crois que vous êtes très attaché à votre grand-mère.
Ma grand-mère, on avait droit à des cours d'éducation musicale tous les soirs en quittant l'école, avec son vieil appareil vinyle qu'elle mettait là, et puis elle sortait ça sur la terrasse. Elle écoutait de tout, ma grand-mère, mais surtout de belles musiques du Bénin et d'Afrique, et surtout du Ghana. Donc en fait, c'est une histoire qui m'a rattrapé simplement.
Keep on.
Patrick Ruffino, je crois savoir que même si vous habitez à Paris, vous allez souvent au Bénin. Qu'est-ce que vous cherchez comme ça en voyageant dans le pays où vous êtes né?
Ça m'inspire. Moi, j'ai rencontré il n'y a pas longtemps encore deux jeunes qui m'ont scié complètement. Hein, qui... En fait, ils sortent souvent pour jouer pour la population comme ça. Ils se mettent au bord de la voie.
Où ça?
En allant à Djougou.
Donc au Bénin.
Au Bénin, oui. Ils étaient en train de jouer des percussions, ils chantaient. Non, mais là, c'est grave. On a encore beaucoup de choses à apprendre. On pense avoir tout vu, mais il y a encore des choses à apprendre. Et ils étaient tout jeunes en plus.
On est dans votre studio. Mmh. Profitons-en. Est-ce que vous pouvez nous jouer un petit titre inédit, contrebasse-voix?
Je vais essayer un truc. Je vais faire une chanson traditionnelle du Bénin. Il y a plein de gens qui s'amusent avec tout ce qui concerne le vaudou. Et tout le monde est d'accord avec cette chanson parce que ça dit, si tu t'amuses avec quelque chose que tu ne maîtrises pas, ça peut se retourner contre toi.
Patrick Ruffino avec Antoine Lalanne Desmé, le festival au fil des voix, c'est jusqu'au 14 février à Paris et notamment avec les rythmes brésiliens d'Agatiracema le 13. Dans un instant, l'info, on se retrouve demain avec l'écrivain Nicolas Fargue pour son roman « Je ne suis pas une héroïne » paru chez POL et vous m'en direz des nouvelles.
Miwae, oh miwae, oh miwae, hey miwae.